Minutes. D'abord, notre invité Afrique et tout de suite l'infosport. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Andréane.
En football, Marseille dans une forme olympique dans les derniers jours du mercato hivernal.
Une fenêtre des transferts qui s'est refermée hier soir et l'OM aura réalisé un gros coup dans les toutes dernières heures en s'offrant une des valeurs sûres du championnat italien, le milieu de terrain algérien Ismaël Bennacer. À 27 ans, le champion d'Afrique 2019 va tenter de se relancer, lui qui a été pas mal embêté par des blessures, Sofiane Amazian.
Pisté par les plus grandes écuries européennes il y a 3 ans à peine, Ismaël Bennacer choisit de rebondir à Marseille. À 27 ans, le milieu de terrain polyvalent a fait le tour de la question du côté de l'AC Milan. Rétrogradé dans la hiérarchie à cause de ses blessures à répétition, Bennacer a tout ce qu'il faut pour séduire les fans de l'OM, selon Nabil Djellit, consultant pour Radio Foot International.
C'est un garçon malheureusement qui, sur ses 2 dernières saisons, a connu des blessures assez graves qui l'ont privé effectivement de compétition à très haut niveau avec le Milan, mais aussi avec la sélection algérienne. Maintenant, Marseille, c'est un grand club, c'est une ferveur, c'est une passion. Je trouve que ça lui correspond en fait. C'est un garçon qui n'est pas avare d'efforts et quand tu joues à Marseille, tu peux pas te cacher.
Champion d'Afrique avec l'Algérie en 2019, champion d'Italie avec les Rossoneri en 2022, le Fennec rejoint son compatriote Amine Gouiri qui vient de débarquer de Rennes et devrait s'incorporer dans un milieu de terrain de très haut niveau. Nabil Djellit.
C'est des joueurs qu'en règle générale, tu ne récupères pas lors d'un mercato d'hiver. Et ils ont su saisir une opportunité de marché. Si on prend un peu de recul, Hojbjerg, Rabiot, Bennacer, si on vous dit ça il y a 3-4 ans du côté de l'Olympique de Marseille, vous dites que c'est un petit miracle. Ouais.
Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg cet été et donc Ismaël Bennacer en février. L'OM poursuit son mercato 5 étoiles pour valider en fin de saison une qualification en Ligue des Champions.
Sofiane Amazian, Marseille qui a par ailleurs présenté hier l'une de ses 4 recrues du mercato hiver. Amine Gouiri.
Arrivé vendredi dernier en toute fin de mercato pour 19 millions d'euros en provenance de Rennes, est déjà en évidence avec une entrée en jeu remarquée au Vélodrome. 30 minutes face à Lyon, son club formateur, une passe décisive et une victoire marseillaise. Amine Gouiri qui est revenu sur ses débuts réussis et sur le lien entre son pays, l'Algérie, et sa ville, désormais Marseille.
Franchement, fier. C'est vrai que je suis arrivé vendredi, tout allait vite. Je suis arrivé, j'ai fait un demi-entraînement, après j'étais dans le groupe direct. Préparer ce match, surtout c'était un match spécial, c'était l'un des meilleurs matchs de la saison, l'Olympico, surtout contre mon club formateur. Donc il y avait tout qui était réuni pour que ça se passe bien. Et c'est vrai qu'on a gagné ce match avec une ambiance de folie et franchement je suis très content. C'est vrai qu'en Algérie aussi, c'est les liens qu'il y a entre l'Algérie et Marseille, c'est des liens très forts. Et franchement ça a beaucoup pesé aussi parce que c'est une ville qui vit pour le foot. Comme je suis en sélection d'Algérie, quand je joue les matchs là-bas, c'est l'ambiance d'hier, je l'ai un peu revu en sélection, quoi. Donc, surtout avec les drapeaux, quand je suis sorti pour la présentation 3 minutes avant, franchement, ça m'a fait un chaud au cœur. Il y avait beaucoup de drapeaux algériens. Donc, je pense que ça a beaucoup pesé et ça va beaucoup m'aider.
Amine Gouiri qui retrouvera les terrains dimanche face à Angers pour la 21e journée de Ligue 1.
L'OM n'a pas été le seul à s'activer dans ces derniers jours de mercato. Monaco également enregistre l'arrivée d'un nouveau joueur.
Le club de la Principauté a obtenu le prêt avec option d'achat du milieu défensif libyen Moatassem Al-Mousrati. Révélé au Portugal, le Libyen était sous contrat avec le Beşiktaş Istanbul où il avait été transféré pour 11 millions d'euros. À 28 ans, Al-Mousrati est la deuxième recrue hivernale de l'AS Monaco. Il pourra disputer le barrage de Ligue des Champions le 12 février face au Benfica.
Antoine Grenier pour le Journal des Sports. Vous revenez tout à l'heure à 7h13, heure de Paris.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
La Chine réplique ce mardi alors que les nouveaux droits de douane américains devaient entrer en vigueur aujourd'hui. Le ministre chinois des Finances annonce ces dernières heures un flot de mesures miroirs qui doivent entrer en vigueur le 10 février prochain. Pékin va imposer des droits de douane de 15% notamment sur les importations de gaz naturel liquéfié et sur le charbon américain. Concernant toujours ce sujet des droits de douane, hier la hausse de ces taxes à l'encontre du Mexique et du Canada a été suspendu pour un mois, le temps de mener d'autres négociations. Hier, un accord a été trouvé avec Ottawa et Mexico, les deux pays qui s'engagent notamment à mieux surveiller leurs frontières communes avec les États-Unis. Le Canada s'engage aussi à mieux lutter contre le trafic de fentanyl, un opioïde meurtrier aux États-Unis. Benjamin Netanyahu doit rencontrer le président américain aujourd'hui pour parler notamment de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les négociations ont repris hier avec avec le Hamas. En République démocratique du Congo, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU donne un nouveau bilan des affrontements de la semaine dernière à Goma, dans l'est du pays. L'OCHA parle de 900 morts. Côté terrain, l'Alliance Fleuve Congo annonce un cessez-le-feu unilatéral à compter d'aujourd'hui. L'organisation, dont le M23 est membre, parle de raisons humanitaires. Le gouvernement congolais, lui, se dit accoutumé, je cite, à ses communiqués la plupart mensongers. Kinshasa dit plutôt attendre le retrait des troupes rwandaises. Le procès se tient en ce moment à Paris, celui des financements libyens présumés de la campagne électorale victorieuse de 2007 de Nicolas Sarkozy. Au cœur de ce dossier tentaculaire, de nombreux acteurs, notamment l'ancien président français, mais aussi l'ex-dictateur libyen Muammar Kadhafi, ou encore celui qui a été chef du renseignement militaire de Kadhafi, ancien numéro 2 du régime, Abdallah Senoussi, condamné en France pour son rôle dans l'attentat de 89 contre le DC-10 d'UTA, qui a fait de nombreuses victimes. Dans son livre « L'assassin qu'il fallait sauver » publié chez Robert Laffont, Vincent Nouzil revient sur ce personnage. Il est notre invité ce matin et il répond à Christophe Bobouvier.
Vincent Nouzil, bonjour.
Bonjour.
Le 19 septembre 1989, un avion DC-10 de la compagnie UTA explose en plein vol au-dessus du Niger. 170 morts, dont 54 Français, 48 Congolais de Brazzaville, 25 Tchadiens. C'est l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire de l'Afrique. Et aujourd'hui, grâce à votre enquête, on sait enfin exactement par qui et comment ce crime a été perpétré. Quels documents avez-vous découvert ?
Alors nous nous basons avec Karl Lasquet, donc journaliste à Mediapart, sur une série de documents libyens qui nous ont été fournis par un imprimeur libyen, dont le nom figure d'ailleurs sur la couverture du livre, il s'appelle Samir Chegouara, et il a eu accès à des archives d'Abdallah Senoussi. C'était le chef des services secrets libyens, c'était le numéro 2 ou 3 du régime de Kadhafi, et c'était le beau-frère de Kadhafi également. Et Abdallah Senoussi a été mis en cause par le juge Bruguière, la justice française, dans cette affaire de l'attentat du DC-10 du avec 5 autres Libyens. Le procès a eu lieu par contumace, c'est-à-dire en leur absence, en mars 1999 à Paris, et ils ont été condamnés à la perpétuité. Donc il n'y a pas de doute sur la responsabilité d'Abdallah Senoussi et de ses Libyens. Mais ces documents d'Abdallah Senoussi, ces archives secrètes qui sont pour la première fois révélées dans ce livre, donnent à voir les préparatifs très minutieux de ces attentats. Et c'est ça que c'est intéressant, parce qu'on avait une vision évidemment partielle, parcellaire, de la responsabilité directe d'Abdallah Senoussi. Et là, dans les documents, il y a par exemple des réunions qui se passent au siège des services secrets, donc avec Abdallah Senoussi, qui donnent des consignes pour frapper des avions français. Il y a aussi, par exemple, des tests qui sont faits par les services secrets libyens, sous la conduite d'Abdallah Senoussi, dans le désert libyen, pour tester, par exemple, des explosifs, et aussi pour tester, dans un deuxième temps, des valises piégées. Or, c'est exactement le mode opératoire qui a été employé dans l'attentat du DC-10, puisque c'est une valise Samsonite bourrée de Semtex qui a été embarquée dans l'avion UTA avec un passager à l'insu de son plein gré, si je peux dire, et qui a été sacrifié par les services libyens. Et c'est cette valise qui a explosé. Ce mode opératoire a été décidé lors de tests, puis de réunions au sommet avec Abdallah Senoussi. C'est ces documents que nous révélons.
Alors, 10 ans après cet attentat, en 1999, le beau-frère du colonel Kadhafi, Abdallah Senoussi, est donc condamné par la justice française. Mais le colonel Kadhafi essaie de faire réviser ce jugement. Et à partir de 2003, il multiplie les contacts avec des hommes politiques français. Il semble qu'il en parle d'abord au président Chirac, puis au ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, lors d'une visite de celui-ci à Tripoli. Comment réagissent Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ?
Alors le président Chirac va être assez flou sur la réponse qu'il peut donner, en disant « je vais étudier la question ». Ça, c'est 2003-2004. Arrive la perspective de Nicolas Sarkozy, qui va être le candidat à la présidentielle de 2007. Il est à l'époque ministre de l'Intérieur, nous sommes en octobre 2005. Oui, il va à Tripoli et le guide en parle effectivement à Sarkozy lors de sa visite du 6 octobre 2005. Et puis ensuite, quelques semaines plus tard, l'avocat personnel de Nicolas Sarkozy se rend à Tripoli pour discuter avec les avocats de Senoussi sur la manière de régler le problème. Donc le sujet a été abordé, et non seulement le sujet a été abordé, mais il y a bien eu l'envoi d'une mission d'avocat pour tenter de régler le problème. Alors c'est une promesse qui est faite, peut-être par Nicolas Sarkozy directement à Kadhafi, et c'est ce que la justice française suspecte, qu'il y a peut-être eu un arrangement, un deal secret entre l'équipe de Sarkozy et Kadhafi. Nous allons vous donner de l'argent pour votre campagne électorale, en échange de quoi il faudra régler le problème de Senoussi.
Est-ce que vous avez contacté Nicolas Sarkozy dans le cadre de votre enquête ?
Oui, nous avons contacté Nicolas Nicolas Sarkozy, mais comme le procès qui a lieu actuellement, qui a démarré le 6 janvier au tribunal de Paris, allait démarrer, il nous a fait répondre qu'il ne souhaitait pas nous répondre.
Alors il y a la situation judiciaire de Nicolas Sarkozy, mais il y a aussi celle d'Abdallah Senoussi, l'organisateur de l'attentat de 1989. Il est toujours vivant. Qu'est-ce qu'il devient ?
Alors Abdallah Senoussi, on a essayé de le joindre pour cette enquête. On n'a pas réussi à le joindre. Il est actuellement en prison, en Libye. Et il faut savoir que les familles des victimes du décédiste du terror en France souhaitent et espèrent un jour avoir un procès, le vrai procès de Senoussi.
Avec Senoussi
dans le box.
Bah oui, puisqu'il a été condamné par contumace.
Par contumace, c'est-à-dire en absence. Et donc, peut-être que les éléments nouveaux que nous révélons sur son implication décisive dans la préparation des attentats va réveiller la justice française afin peut-être que la France redemande son extradition depuis la Libye.
Vincent Nouzil, merci.
Vincent Nouzil qui a co-rédigé avec Karl Lasker le livre publié chez Robert Laffont, L'assassin qu'il fallait sauver, entretien avec Christophe Boisbouvier. Notre chronique matière première et ce matin on s'intéresse aux engrais russes. Sous la pression de plus en plus forte de l'Europe, des sanctions sont envisagées par l'Union européenne, même si l'UE joue les équilibristes dans ce dossier, Marie-Pierre Olfon.
Les nouvelles sanctions européennes prévoient une augmentation graduelle des tarifs douaniers pour arriver au bout de 3 ans à des taxes supérieures à 50%. Ce plan, qui doit être encore voté par le Parlement européen, a pour objectif de réduire la dépendance à la Russie dans un domaine vital, la sécurité alimentaire. Car depuis le début de la guerre en Ukraine, les exportations russes durées de NPK ou de DAP vers l'Europe ont plus que doublé. Un jour sur 7, désormais, les besoins en nutriments du secteur agricole français sont fournis par la Russie. Pour les agriculteurs qui subissent les cours du marché mondial pour vendre leurs grains, les prix pratiqués par les exportateurs russes sont précieux car ultra compétitifs. L'Europe peut se fournir ailleurs pour l'urée, par exemple, il y a l'Égypte ou l'Algérie, mais le prix sera toujours plus élevé. La préparation de nouvelles sanctions n'est donc pas une bonne nouvelle pour les grandes filières agricoles des pays tels que la France, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. Et c'est sans doute pour tenter de ménager les agriculteurs que les mesures en préparation sont graduelles. Ces sanctions répondent en revanche à une demande insistante des fabricants européens d'engrais tels que les géants Yara, Azoti et Achema qui souffrent des prix du gaz et ont été contraints ces derniers mois de réduire leur activité. Pour ces industriels, le projet de taxe à l'étude arrive même trop tard et doit être encore plus ambitieux. La Pologne, qui assure la présidence du Conseil de l'UE, a clairement pris position pour la mise en place de tarifs douaniers supplémentaires. Le pays est directement concerné et dit vouloir arrêter l'afflux de produits qui étrangle son industrie nationale des engrais.
Marie-Pierre Olfon.
RFI Matin.
Chaque jour, 20 minutes de reportage à écouter sur RFI. C'est notre grand reportage et ce matin, comme chaque jour, on vous fait entendre un extrait de ce long format aujourd'hui consacré à l'homosexualité, plus généralement à l'orientation sexuelle devenue l'une des principales raisons mises en avant par les demandeurs d'asile pour expliquer la fuite de leur pays. En Europe et notamment en France, c'est parce qu'aujourd'hui, dans certains pays d'Afrique, les LGBTQIA+, un acronyme destiné à englober toutes les orientations sexuelles, les LGBTQIA+, sont trop souvent rejetées, menacées quand elles ne sont pas directement victimes de violences ou de condamnations. Migrants LGBT fuirent l'Afrique pour survivre. C'est un grand reportage de Lise Verbeck. En voici un extrait.
Jean-Joël, que l'on retrouve dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, dans une petite ville de Picardie. Le trentenaire se remet doucement d'une opération chirurgicale. Une opération pour réparer les sévices subis au Cameroun. Au Cameroun, l'homosexualité est punie de 5 ans de prison et elle est considérée par les médias et l'État comme une menace pour la sécurité publique. Arrêté plusieurs fois par la police, Jean-Joël décide, pour sauver sa vie, de quitter son pays. Des images de sa traversée du désert à pied lui reviennent en tête régulièrement, surtout la nuit.
On était un groupe, on était soit 27 et parmi ça il y avait une fille enceinte. Pendant la marche, elle a accouché. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Bah, puisque si on reste là avec elle, on va nous arrêter peut-être tous. Ça va freiner le voyage parce que l'autre passeur qui est au Maroc nous attend aussi. On sait qu'on a 7 jours de marche, on va arriver à telle heure. Donc si on en retaille pas. Donc je vois comment le passeur regarde comme ça, regarde la fille. Bon, il fait geste qu'on continue. Elle est là, elle est couchée. son bébé, on lui respire un peu, donc elle est couchée là. Elle me comprend qu'on est en train de l'abandonner. Elle pleure, elle me dit « Pardon, mon frère, ne me laisse pas. Cette image, ça me fait toujours mal. On l'avait abandonnée. Elle est morte là-bas. »
Une fois au Maroc, Jean-Joël y restera bloqué plus de 2 ans, car les passeurs et sa communauté apprennent qu'il est homosexuel.
Aucun passeur ne me mettait dans son zodiaque, parce que quoi ? Ouais, tu as la malchance sur toi. Tu vas aller faire chavirer le zodiaque dans la mer, parce que tu es poissé. En fait, c'est comme ça que tu es vu. Tu es vu comme une personne à part.
Comment vous avez fait alors ?
Ben voilà. Il fallait s'adapter. Je suis allé au sud du Maroc, à Agadir. J'ai commencé à travailler la tomate là, où j'ai épargné un peu de sous. J'ai acheté mon petit Zodiac de 6 places. Je suis venu à Tanger. C'est avec ça que j'ai pu mettre sur la mer et dans le détroit et prendre quelques gars sénégalais qui maîtrisent un peu l'eau pour pagailler et tout. On a mis le truc en la mer, on a pu s'échapper à la vigilance des gars de côté et tout. On arrive donc en Espagne.
Après l'Espagne, Jean-Joël arrive en France. Il demande l'asile qu'il a obtenu il y a quelques semaines après plusieurs rejets.
Ce grand reportage signé Lise Verbeck a écouté en intégralité aujourd'hui sur RFI à 11h10 et 19h40 temps universel et à retrouver sur notre application RFI Pure Radio.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Sénégal, le gouvernement versera une première aide financière aux victimes et aux familles endeuillées par la répression des manifestations des dernières années du régime de Macky Sall. Que vous inspire ce geste? Quelles doivent être les prochaines étapes du processus d'indemnisation?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Ce mardi sur RFI.
Comment rendre visible la recherche africaine?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Comment donner leur place aux chercheurs présents sur tout le continent mais absents des publications scientifiques internationales? Regard croisé des différents acteurs de la recherche réunis au Cap en Afrique du Sud pour faire émerger une science réellement ouverte au Sud.
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.